Dans un communiqué publié hier mardi à Kinshasa, la Conférence épiscopale nationale du Congo dénonce et condamne la violence sous toutes ses formes. La CENCO exprime son regret de voir le sang des Congolais couler une fois de plus. Pour cela, elle décide de suspendre sa participation au dialogue national pour faire le deuil et rechercher un consensus plus large. Selon son secrétaire général adjoint, par respect du cadre constitutionnel, tout accord à convenir à l'issue du dialogue devrait tenir compte de la non-représentativité de l'actuel président de la République aux prochaines élections. Comment analyser cette décision de la CENCO? C'est notre thème de ce soir et pour en parler, je reçois M. l'abbé Donatien Chollet. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes premier secrétaire général adjoint de la Conférence épiscopale nationale du Congo, CENCO. Professeur Bob Kabamba, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes professeur à l'Université de Liège en Belgique, également coordonnateur de la cellule d'appui politologique en Afrique centrale. Il va nous rejoindre dans un tout petit moment. Lui, c'est M. André-Alain Atundu-Diongo, porte-parole de la majorité présidentielle et délégué au dialogue politique. Mesdames et messieurs, bienvenue à tous dans votre émission.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
Dans un communiqué de presse publié ce mardi à Kinshasa et intitulé « Tu ne tueras pas », la CENCO suspend sa participation au dialogue national pour faire le deuil et rechercher un consensus plus large. Aussi, la Conférence épiscopale nationale du Congo dénonce et condamne la violence sous toutes ses formes et exprime son regret de voir le sang des Congolais couler une fois de plus. On écoute Abbé Donatien Chollet, ses propos sont recueillis par Michel Kifindangoy.
La CENCO appelle aux uns les autres que ce ne sont pas des ennemis mais des frères, des compatriotes d'un État qu'ils doivent construire ensemble et non pas détruire. Le sang de nos frères et de sœurs innocents versés pour le respect de la Constitution nous interpelle. Il constitue pour nous un signe de temps. Voilà pourquoi, par respect pour eux, dans un élan de solidarité avec les familles éprouvées et le peuple congolais tout entier, la CENCO estime judicieux suspendre sa participation au dialogue national pour faire le deuil et rechercher un consensus plus large. Par respect du cadre constitutionnel, tout accord politique à convenir devrait tenir compte des fondamentaux suivants. Il devra être clairement établi et stipulé que l'actuel président de la République ne sera pas candidat à la prochaine élection présidentielle à organiser le plus tôt possible. Les dates des élections devraient être fixées dans les dits accords.
Voilà, Monsieur l'abbé Donatien Chollet, premier secrétaire général adjoint de la Conférence épiscopale nationale du Congo, CENCO, c'est vous qu'on suivait là dans cet extrait. Je reprends cette phrase que vous avez prononcée tout à l'heure au point 6 de la déclaration de la CENCO. Le sang de nos frères et sœurs innocents versés pour le respect de la Constitution nous interpelle et ne doit pas nous laisser indifférents. Il constitue pour nous un signe de temps, Monsieur l'abbé, un signe de bonne ou de mauvais augure.
Malheureusement, un signe de mauvais augure dans la mesure où ce qui devait se faire normalement dans la logique des choses, le respect de la Constitution, on doit maintenant le chercher par dans la rue, on doit maintenant le chercher par le sacrifice. Voilà ce qui est mauvais.
Alors, vous dites également qu'au point 5, la CENCO rappelle aux uns et aux autres qu'ils ne sont pas des ennemis, mais des frères et des compatriotes d'un État qu'ils doivent construire ensemble et non pas détruire. Est-ce que vous n'êtes pas en train de prêcher dans le désert?
Bon, prêcher...
Au vu de ce qui s'est passé.
Oui, malheureusement, on est triste. De voir que depuis un certain temps, les évêques parlent, mais ils ne sont malheureusement pas très bien écoutés. Alors que dans le contexte, dans les débats politiques, je crois que ce sont des gens qui devraient être le mieux écoutés parce qu'ils n'ont aucun agenda politique, ils n'ont aucune ambition politique. Mais ils sont des hommes de Dieu, l'espérance ne trompe pas. Comme l'a dit quelqu'un, les effets font leur travail, à la fin, comme on prêche, on dit, Oazalina Mato Yakoyoka, Ayoka.
Alors, Monsieur l'Abbé, je ne voudrais pas damer le pion à cet auditeur. Je vous prie de suivre cette réaction qui vous est adressée.
Je suis Emmanuel Moulamba Kapanga, je vous appelle depuis Kinshasa. Je pense que la CENCO n'est pas sincère envers les Congolais, puisque depuis le début du dialogue, elle savait que ce dialogue n'était pas inclusif. Mais elle a quand même pris part et ils ont débattu sur divers sujets. Maintenant, elle a compris que le peuple congolais n'était pas d'accord avec cela. La CENCO décide de suspendre sa participation. Donc la CENCO devait prendre cette décision au début du dialogue et non pendant qu'on attend les communiqués finaux.
La CENCO ne serait-elle pas en train de jouer au Ponce Pilate, M. l'Abbé?
Pas du tout. J'ai bien reçu la question de notre frère. Je crois que si on suit l'historique des choses, on verra, on se rendra compte que les évêques sont constants. Depuis février 2012, je crois que les évêques étaient parmi les premiers à appeler à un dialogue inclusif. J'insiste, un dialogue inclusif. Les choses ont évolué, on a eu les concertations nationales qui a souffert de manque d'inclusivité et aussi de manque de suivi. Et nous sommes tombés malheureusement dans une crise plus grave encore. Les évêques ont rappelé la nécessité du dialogue inclusif. Et au début de ce dialogue, tout en envoyant l'air délégué que je suis, les évêques ont rappelé pour eux les fondamentaux et ils sont revenus sur l'inclusivité. Le président de la CENCO était invité comme personnalité, mais il a privilégié justement rester, ne pas répondre à cette invitation, se contentant de son délégué que je suis, pour continuer à travailler, à rappeler les autres. Donc on n'a fait que ça, on n'a fait que ça. C'est entre-temps, le facilitateur était devenu plus qu'impatient. Il a convoqué le dialogue. On espérait encore que tout en étant là, et même au dernier moment, c'est ce qu'on tente de faire. Donc, c'est la constance. On pouvait les avoir. Malheureusement, ces événements malheureux, cette stratégie est intervenue. Et le sang de nos frères nous interpelle. Donc, c'est un message fort qui montre que on ne peut pas conclure le dialogue en cours dans ce contexte où il est clairement établi qu'un bon nombre de nos concitoyens ne se sentiraient pas concernés. On aura travaillé pour rien. Voilà pourquoi l'Église catholique a décidé de suspendre pour faire le deuil, bien sûr, mais pour rechercher un consensus plus large. Je crois que du début à la fin, c'est la constance.
Alors, Monsieur l'Abbé, en d'autres termes, n'eût été ces incidents malheureux, la CENCO aurait continué son bonhomme de chemin dans le dialogue. Parce que n'eût été ces incidents, le dialogue peut-être aurait pris fin aujourd'hui, peut-être.
Non, je vous dis que tout en étant en dialogue, on continuait de réfléchir sur les formules, d'impliquer les autres, ou au dernier moment, ou les faire venir au niveau de l'accord, ou de les impliquer au niveau des... On était sur plusieurs chemins, tenant compte justement de cette nécessité d'inclusivité.
Et visiblement, ça n'a pas marché.
Visiblement, jusque-là, ça n'a pas marché, il faut le reconnaître.
Alors, le point 7, au point 7 de votre déclaration, vous dites, la CENCO dit, je cite, « Tout en suspendant sa participation au dialogue en cours, la CENCO tient à rappeler que par respect du cadre constitutionnel, tout accord politique à convenir devrait tenir compte des fondamentaux suivants. Le premier point, il devrait être clairement établi et stipulé que l'actuel président de la République ne sera pas candidat à la prochaine élection présidentielle à organiser le plus tôt possible. » Pourquoi cette insistance?
Cette insistance s'explique simplement par le fait que c'est surtout ça qui fait problème. Le mandat du président de la République finit au mois de décembre et n'est plus renouvelable. Jusque-là, on n'a jamais entendu parler de lui-même qu'il ne serait pas candidat alors que le Congolais se pose sérieusement cette question. Et il serait question, donc on se rend compte de l'impossibilité matérielle d'organiser les élections dans les bonnes conditions d'ici décembre. Donc il serait éventuellement question de se donner un petit temps juste nécessaire pour organiser ces élections. Alors, Et la première chose, la première certitude que nous devons avoir dans ce contexte, c'est que la Constitution est respectée particulièrement dans son, parce qu'il s'agit d'un article verrouillé. Donc la CENCO, en allant au dialogue, a conditionné sa participation par le respect du cadre constitutionnel, particulièrement dans ses articles verrouillés. Donc l'insistance se justifie.
Est-ce que la CENCO l'a dit au dialogue ou elle s'est contentée de cette déclaration en ayant suspendu sa participation pour le dire en dehors de l'endroit consacré au dialogue précisément?
Vous poserez la question à ceux qui sont au dialogue. La CENCO ne s'est pas tue quand l'occasion lui a été donnée de s'exprimer là-dessus.
Et quelle est la réponse qu'elle a reçue des autres partenaires?
Bien entendu, vous savez, c'est un forum politique où chaque camp défend ses intérêts. Ceux qui se retrouvaient dans cette proposition applaudissent. Ceux qui trouvent que ça menace les intérêts boudent. Mais la CENCO va de l'avant avec ce qu'elle considère comme une vérité fondamentale du point de vue constitutionnel.
Merci Monsieur l'Abbé. Professeur Bob Kabamba, professeur à l'Université de Liège en Belgique, également coordonnateur de la cellule d'appui politologique en Afrique centrale. Professeur, comment vous analysez cette décision de la CENCO?
Merci pour l'invitation et merci pour la question. Je vais d'abord commencer par dire, il va de soi que si la CENCO n'avait pas dit, pris une position comme elle l'a dit aujourd'hui, on n'aurait pas eu l'équivalent de ce qu'on est en train d'avoir. La CENCO, de mon point de vue, est la seule structure au niveau de la société civile qui compte. Quand je dis qui compte, ça veut dire qu'il y a la potentialité de pouvoir contrôler la plupart de réseaux dans lesquels ils sont, c'est-à-dire les paroisses, c'est-à-dire les églises, c'est-à-dire les différentes paroisses, les EFC, dans lesquels il y a une coordination au niveau national. Et pourquoi la CENCO, elle pèse? Parce que simplement, c'est la seule structure au moins qui a une expression et qui peut dire ce qu'elle peut dire et que tout le monde se retrouve dans ce qu'elle dit. Ce qui n'est pas le cas des autres composantes. Notamment, on peut prendre le cas de ce civil où on a multitude de structures qui sont dedans et qui, des fois, on entend une chose et son contraire. La même chose avec l'opposition où on entend une chose et son contraire. La CENCO est la seule structure, de mon point de vue, indépendante, qui a un poids et qui peut peser par rapport au débat pour lequel on est en train de débattre. De manière très claire aussi, pour en réponse maintenant à votre question, sur base de ce que je viens de dire, c'est-à-dire que la CENCO, je pense, de mon point de vue, elle a été claire dès le départ. Elle a mis des conditions au départ. La seule chose, c'est qu'elle a mis les conditions, mais elle sans savoir si les conditions préalables qu'elle avait bien évoquées avant le début du dialogue n'étaient pas encore rencontrées, elle est quand même allée au dialogue. Et puis, elle arrive au dialogue. De ce point de vue-là, elle pensait influer sur le coup et sur le cours et sur les décisions qui allaient sortir par rapport à la position qu'elle avait déjà définie préalablement. Mais il va de soi que, avec les options qui ont été définies et adoptées préalablement, c'est-à-dire notamment la question du fichier, la réforme du fichier électoral dans son intégralité, met la CENCO en difficulté. C'est-à-dire, lorsque on accepte le principe de la réforme du fichier électoral, ça veut dire que nous entrons dans une stratégie qui est la stratégie de du glissement qui ne dit pas jusqu'à quand on va terminer ce fichier, jusque quand on aura un fichier fiable qui pourrait être certifié par la communauté internationale comme être un fichier valable pour aller aux élections. De ce point de vue-là, la CENCO s'est retrouvée, de mon point de vue, piégée. En acceptant ça, elle se retrouve dans une dynamique qui amène le calendrier électoral, non pas l'année prochaine, puisqu'on est d'accord qu'il n'y aura pas d'élection en 2016, non plus en 2017. On est préalable. Peut-être en 2018, nous sommes en 2019, voire 2020. Et de mon point de vue, la CENCO se retrouve dans une dynamique où elle se rend bien compte qu'elle va se retrouver en mettant son focus sur une stratégie qui amène les élections en 2020, dans le meilleur des cas, qui est cette stratégie qui est en désaccord avec ce qu'ils avaient préalablement accepté avant d'aller au dialogue, la CENCO se retrouve piégée, et de ce point de vue-là, la rétractation qu'elle fait, de mon point de vue, fait en sorte que maintenant elle doit rétraper des pédalés pour qu'elle revienne sur les positions de départ, et les positions de départ sur lesquelles elle se braque, de mon point de vue, rejoignent maintenant la position de l'opposition radicale de rassemblement pour lequel ils ne veulent pas d'un glissement qui va amener les élections présidentielles à des échéances sur lesquelles on n'a pas
professeur,
de calendrier.
Professeur, alors, je posais tout à l'heure la question à M. Labbé Chollet sur cette phrase du communiqué qui dit que le sang de nos frères innocents versés constitue pour nous un signe de temps, et il a dit que c'était de mauvais augure. Professeur, est-ce que vous pensez que la classe politique a compris ce message de la même manière?
Mais je pense d'abord que la CENCO a compris le message. Je pense d'abord que c'est la CENCO qui a compris le message. Parce que la CENCO voulait dès le départ avoir un calendrier clair au départ, mais quand elle s'est rendue compte que c'était piégé par rapport à l'objet qui a été levé, fait un tour en arrière. Et les manifestations et les meurtres qui viennent, les morts qu'on vient d'avoir avec les manifestations, ne fait que, entre guillemets, aider la CENCO à prendre sa décision de pouvoir revenir en arrière. Mais par rapport à maintenant à la classe politique, le problème est le suivant. C'est que maintenant, on est clairement dans un bipolarisme clair, défini, sur lequel on se rend bien compte que, d'une part, on ne veut pas de la stratégie définie par le dialogue, d'autre part, on ne veut pas dans lesquels les consensus dans lesquels ça peut se dégager le dialogue, où on se rend bien compte qu'on va arriver à avoir un glissement, et de l'autre côté, on se rend bien compte qu'on aura un glissement. Et la population congolaise se met du côté de ceux qui n'appuient pas l'option du dialogue, et de mon point de vue, la CENCO fait rétropédale pour, entre guillemets, retrouver le mandat pour lequel la CENCO s'est engagée dans le cadre du dialogue.
Merci, professeur. Monsieur l'abbé, monsieur l'abbé André Alatounou, monsieur l'ambassadeur André Alatounou, bonsoir.
Bonsoir.
Voilà, vous êtes porte-parole de la majorité présidentielle et délégué au dialogue politique. Comment vous analysez ce message de la CENCO? L'abbé Chollet disait tout à l'heure que les incidents malheureux, le sang de nos frères et sœurs congolais, constituent un signe de temps, un signe de mauvais augure. Est-ce que vous partagez ce point de vue?
Bonsoir à tous les spectateurs, à monsieur l'abbé et au professeur. Je crois qu'il faut d'abord rappeler l'historique des choses. Ce que nous déplorons, c'est-à-dire les morts d'hommes, les destructions provoquées par les leaders du rassemblement, sont l'aboutissement logique d'un conditionnement arrivé à maturation criminelle depuis leur séjour à l'île de Gorée, avec comme fixation cette date. Je crois que ça, il faut le dire, il faut que les gens le sachent. Ceci n'est pas arrivé par hasard, ceci est une opération de maturation criminelle arrivée à point. Deuxièmement, ceci est arrivé parce que les organisateurs n'ont pas respecté les dispositions pratiques convenues avec le gouverneur. Pour employer une vulgaire expression, ils ont roulé le gouverneur par une opération de l'heure afin de poursuivre en réalité leur objectif de destruction et de création de chaos en vue de prendre le pouvoir par la rue. Excusez-moi, du caractère brut. Alors, la déclaration dans ce contexte, la déclaration de la CENCO, qui a toujours préconiser le dialogue, n'est-ce pas, entre hommes politiques congolais, prête un peu à confusion.
Comment?
Parce que elle donne l'impression, elle pourrait donner aux leaders du rassemblement à penser que la CENCO les soutient dans leur radicalisme, dans leur refus obstiné d'aller au dialogue. Alors, personnellement, j'aurais souhaité que la CENCO eût pris plutôt la décision de les appeler au dialogue. Parce que les convaincre à venir au dialogue augmenterait, si vous voulez, la quantité, la qualité de l'inclusivité. Parce que un dialogue inclusif, c'est un acte volontaire de chaque participant. Et donc, le tort ne se trouve pas dans le chef de ceux qui participent, le tort se trouve dans le chef de ceux qui hésitent, ceux qui ne veulent pas participer. Je pourrais donner un exemple bête. Le magasin est déclaré ouvert, c'est écrit « magasin ouvert ». Mais tous les passants ne sont pas obligés d'y entrer. Et aucun passant ne peut se plaindre en disant « je ne suis pas entré dans le magasin, c'est un traitement discriminatoire ». On va lui dire « le magasin est ouvert, pourquoi n'êtes-vous pas entré ?» Et donc, je pense que aujourd'hui, les morts des innocents, vraiment innocents, morts dans la manipulation et le mensonge, que Kabila a encore son mandat qui court. Sur le plan des faits, aujourd'hui, il était question de déposer leur protestation face à l'incapacité de la CENI de ne pas convoquer les électeurs. Alors, quel rapport avec cette destruction massive des vies humaines, des biens matériels, des emplois?
Alors, c'est un signe de mauvais augure qui devrait interpeller toute la société congolaise. La SENCO se dit très interpellée par cette situation. Est-ce qu'au niveau de la majorité présidentielle, vous comprenez le message lancé par cette frange des Congolais?
Mais absolument. Ils sont manipulés.
C'est le seul message que vous retenez.
Ce n'est pas un signe de mauvais augure. Non, c'est un prodrome. C'est un signe avant-coureur qui nous dit, je dirais même que c'est comme un toxin, n'est-ce pas, qui nous dit, faites attention, le danger arrive. Le danger arrive si vous ne faites pas, si vous n'êtes pas tous ensemble. Et ceci devait interpeller plus la SENCO pour dire, mais pourquoi ceux qui ne sont pas au dialogue peuvent attaquer les personnalités et les biens des personnalités qui sont au dialogue? Pourquoi? Est-ce que c'est cette démocratie-là de la pensée unique et de la tolérance que l'on voudrait instaurer dans notre pays?
Alors, Monsieur l'abbé Cholet a tout à l'heure dit que la SENCO trouvait mal que le dialogue puisse se clôturer dans ce contexte, dans cette ambiance morose. Est-ce qu'il ne faudrait pas adopter cette attitude au niveau de la majorité?
Nous sommes en politique. Les faits sont les faits et les faits sociaux sont têtus. Eh bien, en ne faisant rien, la date du 19 septembre, du 19 décembre, ne résoudront pas le problème posé sur le processus électoral. Et je me souviens ici des paroles de Mgr Kombo de Brazzaville, qui était président de la conférence nationale, Ernest Kombo, et qui a mis en garde les hommes politiques de Brazzaville contre la tentation du perfectionnisme. Le perfectionnisme peut arrêter l'action, même une bonne action. Voilà pourquoi j'ai dit la décision ou le communiqué de la SENCO peut prêter à confusion et par son perfectionnisme bloque un peu, contribue à bloquer la machine, si vous permettez l'expression.
Monsieur l'abbé, un communiqué perfectionniste qui contribue à bloquer la machine, dit Monsieur André Alain Atondou.
Bon, j'aimerais plutôt que l'ambassadeur me dise à quoi servirait un dialogue, quand bien même la résolution serait bonne, dont le résultat serait rejeté par une bonne partie de la classe politique. Est-ce que la crise aurait été résolue de cette façon-là? Et nous savons qui est dehors. Ce ne sont pas de petits politiciens de la rue, même s'ils se trompaient. Donc, et il nous conseille de le rechercher, c'est tout, de les inviter, c'est tout ce que, si la SENCO a suspendu, c'est pour faire le deuil, mais pour rechercher un consensus plus large, justement les inviter. Mais dire que ont tort seulement ceux qui sont dehors. Non, je crois que on est dans un cas où avoir tous les tableaux, la responsabilité est partagée. Même par rapport à ce qui est arrivé le 19 et le 21. C'est une certaine gouvernance qui a amené à cette situation. Donc l'opposition est aussi responsable à un certain degré par rapport à ces morts. La police a aussi sa part de responsabilité, donc les responsabilités sont partagées. Et je ne crois pas que l'opposition radicale refuse le dialogue. Il refuse le dialogue sur... ce qui fait le plus problème maintenant, c'est la réquisition du médiateur. Bon, c'est difficile d'imposer à quelqu'un un médiateur. La CENCO trouve que ce médiateur n'a pas la capacité de bloquer les choses.
Ou plutôt de fédérer tout le monde.
Ouais, de fédérer... la CENCO pense que le rôle du facilitateur, il ce n'est qu'un facilitateur. Non. La CENCO veut convaincre les autres à mettre aussi de l'eau dans leur vin. Mais c'est passé de ça, c'est vraiment s'y tromper. Donc la CENCO se trouverait dans une histoire. Donc la CENCO a toujours voulu le dialogue pour résoudre la crise, mais la CENCO ne serait pas à l'aise dans un dialogue qui se terminerait avec toute la crise devant.
Alors, vous avez suivi professeur Bob Kabamba qui pense, lui, que la CENCO est plutôt désillusionnée parce que vous pensiez, en entrant au dialogue, que vous pourrez influencer le cours de ce forum, malheureusement pris au dépourvu. C'est par exemple pourquoi vous insistez sur les fondamentaux tels que énumérés au point 2 du point 7, excusez-moi la tautologie, vous dites, vous insistez que les dates des élections devront être fixées dans le dit accord.
Oui, ce que l'opinion doit savoir, c'est que même si le rassemblement était au dialogue, si jamais un compromis politique arrivait à un accord politique qui ne tiendrait pas compte de ces fondamentaux, même si tous les politiciens étaient d'accord, la CENCO ne cautionnerait pas cet accord-là, parce que la CENCO ne peut pas assumer la responsabilité de cautionner un complot contre la nation, même si ce sont des éminents politiciens qui sont à la base.
Ne serait-ce pas un baiser de Judas que la CENCO serait en train de donner à ceux qui sont au dialogue?
Non, certainement pas, parce que la CENCO n'a pas fermé la porte du dialogue. La CENCO veut un dialogue qui capable de résoudre un problème. Si aujourd'hui et demain, on réussissait à élargir ce consensus, la CENCO serait à l'aise dans ce dialogue.
Professeur Bob Kabamba, il y a cette réaction pour vous.
Alain Bonodia, depuis Kinshasa. L'on peut être tenté de croire à la bonne foi de la CENCO. Cependant, il est surprenant que celle-ci puisse ajouter à ses raisons qu'il soit mentionné dans l'accord que le chef de l'État en place ne sera pas candidat dès lors qu'aucune disposition constitutionnelle n'ait été jusque-là révisée. Doit-on comprendre par ces déclarations que cette éventualité aurait été débattue lors du dialogue auquel elle est partie prenante? Si cela n'est pas le cas, n'est-ce pas que cette incise serait superfétatoire dès lors que la Constitution en a fait un principe?
Professeur Bob.
Merci pour la question qui est un peu délicate, qui aurait dû être adressée, à mon avis, à l'abbé par rapport à la CENCO, mais je dirais ceci, de manière claire, sans ambiguïté. Je pense que de toutes les déclarations qu'on a essayé de voir, que le président de la République lui-même avait dit qu'il allait respecter la Constitution. Il parle de la Constitution de 2006. Il ne parle pas d'une autre Constitution. Donc ça veut dire que toute chose est égale par ailleurs. En fonction de cette constitution, le président ne peut pas se représenter aux prochaines élections. Et la CENCO, de mon point de vue, a raison de rappeler clair sur ce principe-là que toute chose restant égale par ailleurs, le président de la République ne peut pas se représenter aux prochaines élections puisque la constitution le lui interdit. Et lui-même l'a dit il y a en 2012, il l'avait dit en 2012 de manière claire, sans ambiguïté. Mais cela ne dédouane pas le fait de pouvoir penser en fonction des événements et des faits que l'on constate tous les jours qu'on est en train d'aller dans un processus où on n'aura pas justement d'élection. Et s'il n'y a pas d'élection, le président se représente. Et je préfère revenir un petit peu en arrière en disant de manière très claire que le problème qu'il y a c'est que ceux qui ne sont pas prêts d'aller au dialogue, ils ne veulent pas du président de la République au 19 décembre. Les autres veulent du président de la République au 19 décembre jusqu'aux prochaines élections. On ne sait pas quand aura lieu les prochaines élections. Et c'est pour ça que la CENCO ne veut pas rentrer dans une stratégie où on ne sait pas quand auront lieu les élections. En fonction de l'arrêt de la Cour constitutionnelle, de manière très claire, ça veut dire que le président de la République reste jusqu'à ce qu'on ait des élections. Donc, s'il n'y a pas d'élections en 2016, on le sait. En 2017, c'est pas certain. En 2018, c'est pas certain. En 2019, c'est pas certain. Donc, on va arriver en 2020, 21, 22, 23, 24, sans élections. Et c'est ça, au fait, que la CENCO, de mon point de vue, met sur la table. Et c'est ça que la CENCO dit. Il faut arriver à avoir un calendrier clair en fonction de dire, est-ce que, en fonction des données techniques que nous avons, on peut avoir les élections présidentielles avec la même constitution à tel moment. En fait, c'est ça le problème. Et c'est ça aussi que le rassemblement, de mon point de vue, est en train de s'engouffrer dans cette faille pour dire qu'effectivement, eux, ils restent sur le 19 décembre en oubliant que la question du 19 décembre est déjà réglée par la Cour constitutionnelle. Mais eux, ils restent sur une dimension qui n'est pas réglée par la Cour, qui est, dans leur point de vue, n'est pas réglée, alors que c'est réglé. Et on est dans cette ambiguïté-là et dans ces fossés-là qui fait en sorte que la CENCO, de leur point de vue, joue maintenant à essayer de savoir comment ramener les autres, je pense, ramener les autres sur une dimension raisonnable en se disant, nous savons tous qu'il n'y aura pas d'élection cette année, et donc le président de la République reste. Si le président de la République reste, qu'est-ce qu'on fait? Comment on gère pour arriver à ce qu'on puisse avoir les élections dans un délai, comme la communauté internationale réclame, qu'ils appellent un délai raisonnable.
Merci.
Et on ne définit pas, on définit pas non plus le délai raisonnable.
Merci, professeur. Monsieur André-Alain Atundu, il y a également cette réaction, pour vous, cette réaction qui vient de Kinshasa.
Kevin Iko, que j'appelle depuis Kinshasa. La CENCO a pris une décision que je trouve citoyenne, étant donné qu'elle prend en compte les enjeux de l'ère. Dans les contextes actuels, il est évident que le respect de la Constitution ne veut plus dire élection dans les délais. Ça signifie plutôt le départ du président Kabila au terme de son deuxième et dernier mandat, hors délai soit-il. Par ailleurs, la CENCO doit également obtenir la participation du rassemblement au dialogue, car il s'est avéré que son absence constitue un danger pour la nation congolaise. Les manifestations du 19 et 20 septembre en est un exemple éloquent.
J'ajoute cette réaction d'Héritier Mbamba de Kinshasa également, qui dit on ne peut pas continuer de dialoguer alors qu'on en connaît bien l'issue. Je pense que la CENCO a pris une décision franche qui consolide la position de la population et contraint ainsi la mouvance présidentielle. Monsieur l'ambassadeur Atundu.
Merci. La décision de la CENCO, le communiqué de la CENCO, en tant que décision politique, peut évidemment être discutée. Parce que c'est ça le sens du dialogue. Essayer de pénétrer, d'avoir un échange interactif pour aboutir à un consensus. La CENCO, la question qu'on peut se poser, est-ce que en quittant le dialogue, en suspendant sa participation au dialogue, la CENCO favorise l'inclusivité? Ils sont convaincus que le dialogue ne sert à rien, puisque d'après eux, ils ont une position négationniste. Un, ils ne reconnaissent pas le président Kabila comme le président élu à l'issue des élections de 2011, et ils ne s'empêchent pas de le rappeler. Par conséquent, ils ne veulent pas qu'une disposition constitutionnelle incluse dans notre constitution in tempore non suspecto par une commission présidée par l'honorable Mwando, entérinée par l'assemblée plénière présidée par l'honorable le président de l'époque Tamitatu, ils ne veulent pas que cette disposition puisse s'appliquer au président en exercice qui se trouve être Kabila. Si c'était quelqu'un d'autre, ils auraient pu accepter. Et puis, ils ne se gênent pas de le dire. Et pour nous, eh bien, l'arrivée l'accueil de M. Tshisekedi, c'est vraiment un symbole, c'est synonyme d'élection. Et donc, la transition, si transition il y a, c'est elle qui doit le faire, c'est elle autre. Non. Je pense que ce sont là des objets de dialogue, parce qu'il s'agit d'une différence d'interprétation et d'entendement démocratique. Et quand il y a ce genre de problème, voilà le sens du dialogue. Et la CINCO devrait favoriser, n'est-ce pas, la concertation entre les acteurs politiques pour amener à un consensus plutôt que de donner son point de vue à imposer à l'une ou l'autre partie de la classe politique. La CINCO doit être l'église au milieu du village. Comprendre l'un et l'autre, les faire parler et dégager une position que eux, les deux qui parlent, considèrent comme consensuelle à minima. Et non comme imposer une position réputée de bon sens, parce que ça vient de la CINCO. C'est ne pas tenir compte des réalités politiques.
Alors, en parlant des réalités politiques, la CINCO ne serait-elle pas plus réaliste quand elle demande, par exemple, que dans l'accord politique à convenir, il faudrait tenir compte des fondamentaux, notamment, j'ai évoqué ici, il devrait être clairement établi et stipulé que l'actuel président de la République ne sera pas candidat à la prochaine élection présidentielle à organiser le plus tôt possible. 2. Que les dates des élections devront être fixées dans le dit accord. 3. Le plan de décaissement des fonds doit être clairement défini dans l'accord. 4. La composition du comité de mise en œuvre de cet accord ainsi que son planning de travail devront être mentionnés dans cet accord.
Je voudrais tirer la conclusion. Si la CINCO s'est retirée, c'est qu'elle pense que ces préalables-là ne seront pas réalisés. Or, ce sont justement des débats du dialogue. Comment peut-on définir la date de départ du chef de l'État éventuellement, alors qu'on n'a pas de date d'élection? Je crois que c'est un élément important. La séquence des élections, le calendrier des élections, tout le reste est une conséquence. D'autant plus que le principal intéressé est la majorité. Personne n'a fait une déclaration pour dire « Nous allons nous battre pour que Kabila ait un troisième mandat. Nous allons, le président Kabila, dire « Moi, je ne partirai pas ». Non. C'est un débat, si vous permettez l'expression, hors sujet. Parce que le grand problème aujourd'hui, ce n'est pas le départ de président. C'est la continuité de l'État et le fonctionnement normal de notre démocratie.
Monsieur l'abbé Chollet, un débat hors sujet. Quand vous évoquez les fondamentaux dont il faut tenir compte dans l'accord politique qui devrait être trouvé à l'issue du dialogue.
Monsieur l'ambassadeur, c'est bien que dans l'opinion, c'est ça le grand problème. Ce qui amène les gens au dialogue, c'est une date, le 19 décembre, qui n'est plus réalisable. Donc c'est l'équivalent de cette date-là que tout le monde attend. Et alors, étant donné que, tout en sachant très bien, parce que ils sont tous les politiciens vivent avec les gens, étant donné que c'est une question dans la population, est-ce que le président accepte de partir après ce mandat? Mais la chose la plus simple, si tout le monde était convaincu que c'est ça, la moindre des choses serait que le président lui-même, ou son porte-parole qui est ici à ma droite, dirait « Rassurez-vous, hein, le président m'a dit, bien lui-même le président dit, je vous assure que sur ce point-là, je vous garantis que je ne me représenterai pas ». Ça déjà, ça aiderait à détendre l'attention. Mais une chose si simple comme ça, si on a difficile à le dire, ça donne à croire qu'il y a anguille sous roche.
Qu'il y aurait mauvaise foi.
Qu'il y aurait mauvaise foi. Voilà pourquoi la CINCO voudrait être vraiment rassurée. Et en rappelant ces fondamentaux, donc la CINCO voudrait simplement saisir l'occasion de la suspension de sa participation motivée par le deuil et la recherche d'un consensus pour le village, pour rappeler éventuellement à ceux qui continueraient les dialogues si les autres ne voulaient pas suspendre avec la CINCO, ok, mais tenez compte de ces fondamentaux.
Alors, cette suspension court jusqu'à quand, monsieur l'abbé?
Bon, on ne peut pas fixer un timing parce qu'il s'agit des conditions, de créer des conditions d'un dialogue capable de résoudre la crise. Mais nous souhaitons le plus tôt possible.
Et donc, à l'instar du rassemblement qui devrait être ramené au sein du dialogue, la SENCO vient s'ajouter au problème.
Bon, la SENCO cherche à résoudre efficacement le problème.
En en créant un autre.
Lequel ?
Oui, mais parce qu'il faudrait maintenant vous convaincre, à vous également, de rentrer au dialogue.
Parce que, le dialogue, c'est le dialogue entre quels partenaires ? Bien sûr, ceux qui sont là sont les partenaires légitimes pour un dialogue, mais ceux qui sont dehors, ils ont aussi leur place dans ce dialogue. Donc, leur absence porterait vraiment en torse à ce dialogue. C'est ce que c'est le réalisme, en fait.
Professeur Bob Kabamba, il y a Donna Kabuya de Kinshasa qui dit « Participer au dialogue actuel et solliciter le respect de la Constitution est contradictoire. Le dialogue actuel a pour but de permettre au président de la République actuelle de rester au pouvoir au-delà du délai constitutionnel. Nous pensons, dit-il, que la meilleure décision serait que la SENCO se retire simplement au lieu de suspendre sa participation au dialogue. »
Je ne pense pas que la SENCO, en suspendant sa situation, enlever la SENCO du dialogue, à mon avis, c'est un mauvais signe, comme je l'ai dit dès le départ. La SENCO, c'est la structure, de mon point de vue, qui est la mieux représentée au niveau de la RDC, qui connaît le mieux les aspirations de la population, implantée partout en RDC. De mon point de vue, ce que la SENCO peut faire, c'est-à-dire, simple, le président de la CENI a dit qu'il avait besoin de 16 mois et un jour pour faire le fichier électoral à partir de février 2016. Et donc, il pourrait terminer ce qu'on appelle le fichier électoral au mois de juillet 2017. S'il termine le fichier au mois de juillet 2017, donc on peut convoquer les élections à partir de juillet 2017, donc on peut fixer les élections en décembre 2017. Et de ce point de vue-là, la SENCO peut, de mon point de vue, dire qu'elle prend l'option, qu'elle ne participe au dialogue, que s'il y a des élections en décembre 2017, en fonction des contraintes qui ont été définies par la CENI, parce que la CENI a donné toutes les contraintes en disant qu'elle peut avoir le fichier après 16 mois et un jour, si elle a le fichier après 16 mois et un jour, donc au mois de juillet, à partir de juillet, on peut convoquer les élections, on peut, de manière claire, sans ambiguïté, dire qu'on peut avoir les élections en décembre 2017. Et la SENCO, d'un point de vue, peut dire, va voir les rassemblements de sa position maintenant, chercher les rassemblements, que les rassemblements reviennent au dialogue avec la date de décembre 2017 pour dire aux rassemblements, voilà, nous pensons qu'on peut organiser les élections en 2017 et vous revenez, et vous ramène tout le monde, on se met d'accord sur cette date-là.
Merci.
Et on se mobilise par rapport à la date. Je pense que la SENCO sera crédible avec cette option.
Merci, professeur. Et en guise de conclusion, professeur, est-ce qu'on ne va pas sortir du dialogue pour entrer dans une autre crise?
Non, parce que si la SENCO dit qu'ils sont convaincus qu'on peut organiser les élections en 2017 avec une date claire, je pense que le rassemblement va débattre sur la date de la SENCO. La SENCO en étant l'institution, de mon point de vue, la plus crédible,
merci,
la plus institutionnelle, elle peut proposer cette proposition et je pense que tout le monde peut se mettre d'accord par rapport à décembre 2017.
Merci, professeur. Monsieur Alain Atundu, comment vous analysez cette proposition du professeur Bob Kabamba?
D'abord, je voudrais préciser que je pense que M. Labbé ne me croirait pas si j'ai dit que le président Kabila n'a pas l'intention d'avoir un troisième mandat, puisque le secrétaire général de la majorité présidentielle, le président de l'Assemblée nationale, a dit, urbi et orbi, que la Constitution sera respectée dans son intégralité.
Et la SENCO devrait simplement dire amen.
Bon. Si c'était une parole, n'est-ce pas, si c'était à l'église, oui, mais seulement constater les faits. Quels sont les faits? 1. L'article 70. 2. L'impossibilité de la CENI d'organiser des élections à temps. Alors, comment concilier ces deux exigences?
La contrainte technique. Monsieur l'ambassadeur.
Eh bien, en guise de conclusion, par rapport aux faits, la bonne foi de la majorité présidentielle n'est pas prise à défaut. Par rapport au respect de la Constitution, par rapport au consensus national, par rapport à l'inclusivité. La majorité, il faut éviter que l'attitude de la CENCO ne devienne un problème, ne fasse de la CENCO un problème, merci, plutôt que de résoudre, de contribuer à résoudre par une position médiane un malentendu qui risque de bloquer le processus de consensus national.
Monsieur Labbé Chollet, en guise de conclusion, comment vous entrevoyez la suite du processus politique en RDC?
Ben, je crois que c'est question de volonté politique. Je voudrais appeler les uns et les autres de considérer le sang qui est versé et de savoir que plus nous perdons du temps, plus la situation s'empire, parce que c'est le peuple qui est au centre. Que tout le monde, vous savez, on est en train de chercher à comprendre ce qui s'est passé. Il y en a qui étaient manipulés, mais il y en a qui sont allés à cause de la faim, du chômage, en fait, le social.
Merci. Donc, il faudrait que ce message-là soit perçu par tout le monde. Merci, monsieur, d'avoir participé à cette émission. Vous pouvez la retrouver sur www.radiocapi.net. Au revoir.